jusqu'à 21h.
Le journal radiophonique amplifié de Transistor.
20h13 tout pile, enfin presque pile, on va pas chipoter, c'est l'heure de c'est un grand moment là, on passe d'une Marie à l'autre. On passe à une Marie qui nous revient à Lyon,
qui
Marie qui descend sur Lyon pour le premier soir de la fête des Lumières, disions-nous tout à l'heure, pardon, là ça devient dur là. On passe donc tout de suite à la revue de presse, et donc bonsoir Marie et rebonsoir Mathilde.
Bonsoir Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence avec une bonne dose de catastrophisme, Marie.
Oui, Rémi, jeudi, c'est le jour de sortie du Point. Et vous les connaissez à la rédaction du Point, toujours dans la sobriété. Ça titre donc « Les derniers jours du modèle français ». C'est dit, je resterai toujours fasciné par ce fonds de commerce du déclin dont les stocks ont l'air absolument inépuisables depuis des siècles. Alors en illustration de cette une, c'est inévitable, la fameuse statue de la Marseillaise à la tête à moitié arrachée à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Le problème de cette photo, c'est qu'elle est en train de devenir un genre de mème médiatique qui veut tout et rien dire. La décadence, la barbarie, la fin de la démocratie, les Visigoths aux portes de Rome, bref. À la rédaction du Point, on le dit, Macron doit tout changer. Et on s'inquiète. Les Français d'un sondage pensent que la démocratie peut disparaître en France, et les manifs font de la casse, et Mélenchon et Le Pen agitent le spectre de la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Le seul moment peut-être où l'article devient intéressant, c'est lorsqu'il questionne le consentement de moins en moins évident des Français à l'impôt, qui est tout de même une part importante du contrat qui les lie à l'État. Là-dessus, on est d'accord, il y a tout un chantier de réflexion politique à ouvrir. Ah, et au fait, au bout d'un moment, je suis désolée, Le Point, mais ce n'est plus possible de citer Christophe Guillouis comme étant un géographe et Emmanuel Todd comme étant un anthropologue et historien. Ces gars écrivent n'importe quoi. Bien cordialement, Marie Lécuyer.
La presse qui s'étale aussi sur la réaction du gouvernement complètement dépassée par tous ces événements.
Alors c'est pas dans mes habitudes d'aller feuilleter Marianne, mais j'ai fait une petite exception pour vous aujourd'hui. Derrière la une qui hurle l'impasse Macron...
François-René, si tu nous écoutes.
J'ai mis la main sur un édito assez railleur de Jack Dion, comme Céline, manifestement, directeur adjoint de la rédaction. Bon, c'est du Marianne, c'est pas franchement méchant, mais ça fait sourire, ça s'intitule... Pour le gouvernement, un bon gilet jaune est un gilet jaune, alors non pas mort, mais un gilet jaune raisonnable. Et c'est ce qu'a dit notre très raisonnable ministre de l'Intérieur, Castaner, qui, je cite, demande que les gilets jaunes raisonnables en finissent avec l'idée forcément irraisonnable de la manifestation. Franchement, des manifs. Parce que vous comprenez, le gouvernement prend des décisions bien raisonnables, lui. Il ne fait jamais marche arrière, le gouvernement, ni sur les taxes sur le carburant, ni sur l'ISF. Ah, oups. Est-il devenu possible de reculer pendant 6 mois? Eh bien, pour l'éditorialiste, oui, ça permet bien d'attendre que les élections européennes soient passées.
Ça bitch sur les technocrates et ça bitch aussi sur les services de police.
Oui, petit détour par le canard enchaîné, Rémi, avec « Gilets jaunes sur le pavé » et « Flics à la rue », c'est le titre d'un des articles. Les journalistes raillent abondamment les services du renseignement français, complètement perdus face à ces manifestants nouveau genre qui ne suivent pas les parcours fléchés de manif, ah bon, et qui viennent parfois avec des armes improvisées, ah bon, des services qui ont envoyé des policiers pas trop capables de comprendre à qui ils avaient affaire ces derniers samedis. Et les journalistes de conclure que les flics ont jusqu'à la prochaine mobilisation, c'est-à-dire samedi, pour se mettre à niveau et Castaner dans la foulée. Conclusion de l'article, sympa cette formation permanente.
Toujours dans la presse de ces derniers jours, tout le monde cherche désespérément à circonscrire le mouvement.
Oui, tout le monde s'échine à décrire qui sont les gilets jaunes, combien ils sont, qu'est-ce qui les rassemble, et surtout, comment ce mouvement va tourner. Évidemment, la presse française s'interroge, elle a cherché des points de comparaison dans les jacqueries d'Ancien Régime, dans les émeutes de mai 68, etc. Dans les colonnes du Monde, mardi, une analyse intitulée « Les gilets jaunes, des révolutionnaires sans révolution ?» L'éditorialiste du Monde y suggère que c'est l'émeute physique qui l'emporte sur la révolution à teneur politique à travers des symboles comme les attaques dans les beaux quartiers, les petites barricades symboliques du 1er décembre, etc. Mais cette analyse ne dit rien vraiment sur l'identité des gilets jaunes. Qui sont-ils ? Au point, on pense surtout que le mouvement a été infiltré par des casseurs pervers et surtout pas anticapitalistes comme ils le prétendent. La preuve, c'est qu'ils pillent même des pharmacies. Salauds de pauvres de classe dangereuse, franchement. Alors la palme revient quand même à mon chouchou, l'édito du Figaro.
Ah, mais voilà, t'attends 20h18 pour nous filer le Figaro.
Évidemment. Édito d'hier par Yves Tréhard, intitulé « Jean, jeu dangereux ». Les Gilets jaunes installent, je cite, « un climat de guerre civile dans Paris ». Guerre civile. Est-ce qu'on pourrait se calmer 30 secondes, s'il vous plaît ? Alors je vais vous dire, le grand problème, c'est que toutes les rédactions de France pourront continuer à publier comme elles veulent, à extrapoler tout et son contraire. Les gilets jaunes sont des classes moyennes ou des smicards, des gens qui ne savent pas manifester, ou au contraire des casseurs chevronnés, ils se laissent emporter, ou au contraire ils savent très bien où ils vont. Bref, tout et son contraire. Mais en fait, personne ne dira quoi que ce soit de pertinent tant qu'il n'y aura pas eu au moins une vraie enquête, grande enquête, qui consistera à aller voir qui sont ces manifestants, leur demander qui ils sont, essayer de comprendre leur discours, au pluriel, de les replacer dans leur position et leur propriété sociale.
Et en fait, pour comprendre tout ça, ce qu'il nous faut, c'est un écrivain, Mathilde.
Oui, Rémi, il nous faut la plume d'Édouard Louis dans les pages des Inrocks. Édouard Louis qui confie « Chaque personne qui insultait un gilet jaune insultait mon père ». C'est un texte poignant, un témoignage qui rappelle que la plus grande des violences est sans doute le mépris pour la vie des classes dominées. Les journalistes veulent savoir qui sont les gilets jaunes, ce qu'ils représentent. Édouard Louis leur répond par ce qu'il voit, lui, dans ses manifestations. Il voit, je cite, « des corps souffrants, ravagés par le travail, par la fatigue, par la faim, par l'humiliation permanente des dominants à l'égard des dominés, par l'exclusion sociale et géographique. Il voit des corps fatigués, des mains fatiguées, des dos broyés, des regards épuisés. » Édouard Louis nous parle aussi des mots que les journalistes emploient. On parle de grogne des gilets jaunes, sauf que ce ne sont pas des bêtes, ils ne grognent pas. Ils disent même parfois quelques mots intéressants, comme ceux d'inégalité et d'injustice. L'injustice, c'est aussi le sujet abordé par l'économiste Maxime Combes dans les pages de l'Humanité. Pour lui, la taxe carbone ne pourra jamais être acceptée avant qu'il y ait une véritable justice fiscale en France. Il rappelle que la taxe carbone est censée servir à orienter les choix en matière de transport. Mais est-ce vraiment un choix pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture moins polluante ? Quelle justice pour celui qui peine à payer son essence lorsque les classes les plus aisées continuent de rouler au diesel parce qu'ils peuvent se le permettre ? La question de la justice, encore et toujours, est au cœur de la COP24, le sommet qui est censé permettre une solidarité climatique entre pays du Nord et pays du Sud. Mais le sujet a bien du mal à se faire de la place dans les pages des journaux, que ce soit en tout petit en bas des unes du Monde ou du Figaro, ou en double page pour une climatique fiction dans Libération. Une fiction, vraiment, il nous faudrait un peu plus que ça pour faire le lien, pourtant si évident, entre inégalité sociale et destruction de l'environnement.
Merci beaucoup Marie et Mathilde pour cette revue de presse à deux voix.